Bonjour, bienvenue sur UX Content Craft. Je suis Apolline, UX Writer Freelance et cofondatrice de Lorem. Lorem, c'est une école de formation à l'UX Writing et aussi un studio pour accompagner les équipes design et produits dans la conception des contenus de leur interface. Sur UX Content Craft, je pars à la rencontre d'UX Writer, de Content Designer, de Product Designer, de Product Manager et bien d'autres encore. Pour, devinez quoi ? Parler du UX Writing. Ensemble, on discute de leur parcours, de leur quotidien, de projets challengeants et de la structuration de l'expertise contenue dans leur équipe. Avant de commencer la discussion du jour, je vous invite à noter le podcast, avec une super note bien sûr, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, place à l'épisode. Dans ce tout premier épisode de la troisième saison du podcast, j'accueille Cassandra, Product Designer Senior, et Fanny, Product Manager Experte, toutes deux chez Conto. Vous le verrez, c'est un épisode à trois voix, puisque j'y interviens. Ensemble, on parle de notre collaboration, de la manière dont on articule nos différentes expertises à toutes les phases de conception. Avant d'écouter notre conversation, je tenais à vous partager deux informations importantes. La première, c'est que cet épisode a été enregistré le 31 mars 2023, donc oui, ça commence à dater. Et Cassandra était alors Product Designer Junior et Fanny, Product Manager Senior. Toutes deux, entre-temps, ont bien sûr évolué depuis notre conversation. Et moi, si vous ne le saviez pas encore, j'ai quitté Conto en août 2023. Aussi, les phases et méthodes de conception chez Conto ont évolué. Ce qui est normal pour une entreprise telle qu'une scale-up. Mais pour autant, notre conversation reflète tout à fait notre collaboration et ce qu'on appelle le Conto-way. Cassandra et Fanny m'ont d'ailleurs dit que cet épisode est comme une sorte de rétrospective, une prise de recul, pour se rendre compte du chemin qu'elles ont parcouru depuis 2023 et notamment aussi 2022 quand elles sont arrivées chez Conto. Donc quel chemin extraordinaire, je pense. La deuxième information importante, c'est comme je suis une très grande experte de la technique, c'est de l'ironie, je n'ai pas réussi à bien capturer les voix de chacune d'entre nous. J'ai essayé au maximum lors du montage de régler ce problème pour égaliser les sons, pour pas qu'il y ait trop de variations dans nos voix, dans nos prises de parole, mais vous verrez qu'à certains endroits, il y a un peu des loupés, j'ai tendance à parler au-dessus des autres et à faire des petits mais en tout cas, j'espère que ça ne vous gênera pas dans votre écoute. Donc trêve de bavardage, il est temps à présent de vous partager ma conversation avec Cassandra et Fanny. Bonne écoute. C'est parti pour le chit-chat pour parler concrètement de ce qu'on fait au quotidien et aussi surtout pour mettre en avant l'UX Writing, on va pas se mentir.
Bien sûr, on est là pour ça.
On va commencer par une première question très simple que vous vous présentiez. Fanny, je te laisse te présenter ton background, comment t'en arrives à Conto, quand tu es arrivée.
Ok. Donc, je suis senior product manager chez Conto. Je suis arrivée début 2022. Et auparavant, j'étais ingénieure en propulsion spatiale pendant 12 ans. Donc,
rien à voir.
Nouvelle aventure pour moi, reconversion. Voilà. En gros, un petit peu mon background. Ce que j'appréciais le plus dans mon ancienne expérience professionnelle, c'était de travailler en groupe, en équipe, d'animer, d'avoir une vision collective. Et voilà, j'ai cherché un métier dans lequel c'était un peu au cœur du métier. J'aimais aussi beaucoup les problématiques digitales. Donc voilà, ça m'a un petit peu... Tout ça, ça s'est combiné, ça m'a orienté vers ce nouveau métier.
Ok, très cool. Donc tu vas nous parler un peu plus. Cassandra, à ton tour.
Oui, à mon tour. Product designer aussi depuis un an chez Conto. Je suis arrivée aussi début 2022. Et du coup, très contente d'être là, hein, vraiment, zéro regret de mon choix. C'était aussi une reconversion, parce que de base, je voulais être traductrice, mais je me suis rendu compte très, 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 très vite que ça n'allait pas être pour moi. Et du coup, je me suis pas mal orientée sur des métiers très user-centric, donc très tournés vers le client, l'utilisateur en soi. Et en termes de background, avant d'arriver chez Conto, j'étais team leader du customer service pour Freenow, anciennement chauffeur privé, anciennement Captel. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que voilà, customer service, ben, on est un peu en première ligne. Hein, donc ouais. Ça me plaisait beaucoup, mais il me manquait quand même ce côté un peu pouvoir toucher directement au produit pour pouvoir soit rapporter, avoir plus de clients ou soit tout simplement pouvoir faire plaisir à l'utilisateur, si je peux le dire comme ça. Mais en tout cas, suite à ça, j'ai aussi rencontré les product designers dans cette boîte Freenow avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges par rapport au product design et c'est ce qui m'a donné envie du coup de creuser un peu plus.
Très cool. Voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas trop, vous n'avez pas du tout même d'éléments de comparaison, vous n'avez jamais bossé avec un ou une UX writer avant, parce que vous êtes vraiment dans un métier de reconversion. Donc ça, c'est très cool, on va pouvoir explorer ça. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce que ça vous a apporté de travailler avec un UX writer, une UX writer. Et un peu avec moi, il faut dire ce qui est. Non, je rigole. Non, non, non. Et puis après, on pourra parler de bah, concrètement ce qu'on fait au quotidien dans les différentes phases de conception jusqu'au lancement d'une fonctionnalité. Du coup, avant de travailler avec un UX writer, c'était quoi votre vision du métier ?
Je pense que je n'avais pas de vision du métier parce que je n'avais pas conscience que c'était un métier en soi. Ça, pour moi, ça faisait quand même assez partie du design. Du coup, je n'avais pas d'avis préconçu là-dessus. Et les premières fois que j'étais amenée à travailler avec du X-Writing chez Conto, je voyais surtout le côté faire le content.
Le contenu.
Et ça s'arrêtait là.
Ok. Et toi, Cassandra ?
Ah mais ouais, la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était pendant ma formation de design crew, du coup. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bah, comme Fanny, pas du tout, enfin, j'avais pas d'avis, je ne savais pas ce que c'était. Et pour moi, comme j'ai juste compris le mot bah, writing, je me suis dit, bon, bah, ils sont juste là pour écrire ma formation, quoi. Je me suis arrêtée à ça. Donc ouais, c'est très réducteur, mais c'est vrai que c'est pas un métier, enfin, on n'entend pas parler quand tu rentres pas dans... C'est le métier du design, j'ai l'impression.
Ouais, et puis comme on a une grande équipe chez Conto, c'est sûr que vous en entendez finalement vite parler au fur et à mesure.
Tout à fait.
Et du coup, comme vous n'aviez jamais bossé avec un UX writer, le truc, c'est que peut-être qu'au départ, vous ne pensiez pas à cette expertise. Enfin, est-ce que vous avez fait des erreurs lors de votre toute première collaboration, si vous vous en souvenez ? Ça fait pas, il n'y a pas si longtemps que ça, au final.
Bonne question. Je pense que sans y faire attention, je sous-estimais l'importance du choix des mots. Et je n'avais pas encore en tête ce que ça pouvait apporter dans toutes les phases, en fait.
Moi, pour ma part, je disais peut-être que les erreurs, par moment, quand on conçoit des écrans, ce n'est pas forcément penser à la copie au premier abord. Et ça m'était arrivé, je pense, en effet, une fois. Surtout quand on passe en mode responsive, donc en version un peu plus mobile, donc on n'est plus sur un écran d'ordinateur, où des fois la copie, en effet, bah, elle ne passe pas. Et je me dis, bon, mince, il faut peut-être que je revoie un peu l'architecture de mon écran. Donc oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé, je pense, mes premières fois en bossant avec X-Writing.
Et maintenant, aujourd'hui, après des mois, des années à avoir bossé en intégrant l'UX Writing, selon vous, ça apporte quoi au produit ?
Alors moi, je trouve que pendant la phase de réflexion, de discovery, ça donne un petit peu des insights assez poussés sur la psychologie des utilisateurs, hein, comment ils peuvent réagir, comprendre les mots, etc. Et c'est vrai que j'aime bien qu'on bosse ensemble sur les préférences utilisateurs parce que voilà, ça apporte, on se complète un peu sur notre façon de voir l'utilisateur, pour moi, qui est très... fonctionnel et des volumes, des behaviors. Et toi qui es un peu plus sur la psychologie, la compréhension.
Ouais.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du binôme product designer et product manager, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du binôme product designer et X-Writer qui pour moi bah, est le combo gagnant. Clairement, elles vont directement droit au but. Hein. Donc moi qui suis votre fan numéro 1.
C'est vrai.
Pour moi, ça m'apporte beaucoup. J'adore bosser avec vous. Enfin, je trouve que, comme dit Fanny, on se complète énormément. Et Moi, le mieux, en fait, ce serait de bosser directement dès le début du projet avec Excited, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils nous rejoignent bien après. Et en vrai, je trouve pas ça plus mal aussi par moment, parce que c'est vrai que du côté du product designer, on a déjà des écrans. Mais du coup, l'Excited apporte encore les nouvelles informations et du coup, on a des nouvelles idées qui surgissent, qui surviennent, pardon. Et ça, c'est top, en fait. Donc, moi, je suis une grande fan et je suis toujours la première, dès qu'on commence un projet, à demander à l'UX-Writer. Soit on l'a, soit on l'a pas. Donc, mais bon. Ouais, donc, vraiment que du positif, quoi.
Et est-ce que vous pensez que ça vous a apporté quelque chose, vous, dans vos compétences, dans l'évolution de vos compétences, dans votre façon de faire?
Moi, je pense à affiner un petit peu la compréhension de la subtilité d'un écran. Du choix des mots, etc. Et je vois bien qu'en tant qu'utilisatrice, je suis sensible à ça. Donc, je vois bien que de l'autre côté, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on prenne en compte.
C'est vrai que de mon côté, par exemple, quand je fais des benchmarks, directement, je vais regarder plus l'aspect design, les composants qu'on utilise, enfin, les composants utilisés sur un écran. Mais c'est vrai que maintenant, j'apporte beaucoup plus attention aussi à la copie quand je regarde les compétiteurs. Et... ouais, enfin, on pense autrement. En tout cas, quand on lit les phrases, on essaie de comprendre le sens derrière, etc. Et la petite anecdote, en fait, c'est que du coup, chez The Design Crew, on devait faire à la fois les écrans et la copie. Et c'était la première fois où je me suis dit, mais on ne peut pas écrire n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on avait dû faire à la fois donc, les écrans et la copie. On a dû les tester et on est convaincu de ce qu'on fait normalement, mais c'est vrai que les premiers mots qu'on a entendus des personnes qui l'ont testé, c'est en mode, mais c'est une pub marketing? Pas du tout, c'était fait pour que tu puisses appuyer sur un bouton, mais c'est pas grave. Donc oui, l'importance des mots, on le voit vraiment en bossant avec l'X-Writing.
Ok, du coup, fin de l'épisode, c'est bon, on a entendu ce qu'il fallait. Non, l'idée c'est qu'on puisse rentrer un peu plus concrètement dans ce qu'on fait. Toutes les trois, comment on collabore, comment on se goupille, comment on goupille notre travail, comment ça fonctionne pour délivrer de la qualité normalement, mais aussi en mode un peu quantoway, parce qu'on a on devrait pas utiliser process, mais on a une façon de faire, on a des phases différentes de ce qu'on peut voir classiquement dans le design avec recherche, idéation, conception, etc. Là, on a des phases un peu différentes quand même. Et l'idée, c'est qu'on puisse explorer là toutes les trois, en quoi ça consiste, et puis ce qu'on fait dedans. Donc, normalement, tout part de la priorisation des projets en fonction aussi des objectifs de la boîte. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais il y a quelques mois, c'est en fait, ça se lance comment un projet, comment on décide que ça va être celui-là.
D'où vous vient cette idée?
Mais ouais, d'où vous vient cette idée? Moi, j'aurais voulu me concentrer sur autre chose. Non, c'est pas vrai. Mais...
en fait, c'est assez collectif. En tout cas, nous, comme on voit chez Conto, c'est assez collectif. On connaît le produit, on a des retours utilisateurs, on a aussi des objectifs au niveau de la boîte. Voilà, on sait ce sur quoi on veut travailler de manière globale. Et après, quand on regarde au niveau de l'utilisateur, ce que ça peut vouloir dire. On est une grosse phase que on appelle ça l'OBEIA chez Conto. C'est vraiment la phase amont de la discovery où on va essayer de se poser des questions, d'analyser un flux en direct, étape par étape, pour voir qu'est-ce qui peut se faire mieux, qu'est-ce qui peut apporter plus de valeur à l'utilisateur, comment on peut l'aider. Et de ça, on priorise. Et donc, la priorisation, elle est vraiment en termes de valeur. Et ensuite, une fois qu'on a choisi le sujet sur lequel on est persuadé qu'il y a de la valeur à créer, ben là, on va aller dans le détail.
Ouais, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est toutes les trois dans l'équipe onboarding, donc ouverture de compte, dépôt de capital.
De l'inscription jusqu'à la première transaction.
Voilà, tout à fait, c'est bien. Merci beaucoup, Cassandra. Petit disclaimer. Et c'est vrai qu'au final, nous, on est plutôt dans l'amélioration de l'existant et aussi l'ajout de nouvelles formes juridiques d'entreprise, l'adaptation au marché.
Et aussi des nouveaux projets, des nouveaux produits. On a quand même cette chance dans l'onboarding d'avoir lancé un nouveau produit l'année dernière, c'est quand même chouette. C'est assez vaste.
Ouais, c'est quand même hyper vaste. Il y a toujours un milliard de trucs. On a décidé qu'on lançait ce projet-là. On rentre en phase de ce qu'on appelle VA, Value Analysis. Est-ce que Fanny, tu peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste?
Ouais, brièvement. Dans cette phase, on étudie le problème de manière fine.
Ouais.
L'idée, c'est d'avoir une photo précise de l'état actuel des choses, de comment l'utilisateur font ou ne font pas ce qu'on étudie, et d'avoir une idée assez argumentée de la valeur qu'on va pouvoir créer. De manière, en fait, cette valeur qu'on va être, c'est le succès qu'on va viser, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'aligner toute l'équipe pendant toutes les phases de conception. Et c'est ce qui doit nous aider à prendre toutes nos décisions, et tout ce qu'on fait doit être au service de de cette valeur qu'on veut créer. Et donc, en principe, on fait cette phase au moins avec designer et product manager, parce qu'on est tout de suite focus sur le la partie expérience utilisateur. Il y a eu quelques vies que j'ai fait avec déjà fait une ensemble.
J'ai participé à plusieurs, et c'est vrai que comme on est moins, enfin on est 20, vous en design, ouais, vous ça. Êtes combien, plus d'une trentaine, ouais. Donc ouais, c'est pour ça, on peut pas nous UX writer switcher forcément tout le temps sur la value analysis, mais ça arrive quand même assez.
Ça arrive. Mais enfin, on est souvent designer, product manager, et notre but, c'est d'arriver à décrire très précisément le problème, là où on veut aller, avoir déjà des pistes un petit peu de ce que pourrait être la solution, avoir creusé à fond ce qu'attend l'utilisateur, parce que c'est notre moteur. Et notre but en sortie de cette phase, c'est d'être prêt pour attaquer la phase suivante, d'essayer d'avoir une réponse à toutes les questions qu'on va pouvoir nous poser par la suite.
Et donc, du coup, t'as ça en tête, qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Concrètement, on commence vraiment par étudier l'actuel dans les moindres détails, et pour savoir par où attaquer le problème. Et une fois qu'on a ça, il y a toute la partie benchmark qui est plus drivée par designer.
C'est vrai que pour rebondir un peu, avoir cette situation actuelle de notre produit, c'est très important, savoir déjà quelle partie on veut tacler en premier. Et déjà aussi, même avec cette situation actuelle qu'on a en production, c'est aussi comprendre qu'est-ce qu'on peut aussi améliorer, qu'est-ce qu'on peut rajouter, comment créer encore plus de la valeur avec ce qui est déjà existant, tout simplement. Donc nous, c'est vrai qu'après, on vient en support au PM pour toute la partie benchmark. Donc nous, ça nous permet un peu, non seulement de voir ce qui se passe ailleurs, mais aussi de rester à jour, tout simplement, avec les patterns utilisés pour certaines problématiques. Et nous, ça nous permet déjà de nous conditionner en mode, voilà ce qui se passe ailleurs, mais nous aussi, on a quand même un design système à respecter, parce que ce qui est important, c'est aussi respecter. Voilà, que tout reste bien dans les normes. On peut bien sûr sortir hors... Enfin, on peut être aussi hors sentier battu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une phase quand même de discovery. On essaie juste de pouvoir piocher ce qu'on a envie. Pour qu'on puisse être sûr qu'on aille dans la même direction entre PM et du design.
Et toi, Cassandra, quand tu dis on regarde ce qui se fait ailleurs, tu regardes quoi concrètement, en fait?
En fonction, en fait, de la problématique et du coup de la data aussi reçue par les PM, ça dépend. Vraiment, ça peut dépendre par moment. Nous, c'est côté onboarding, donc souvent... Moi, je vais m'appuyer un peu sur comment est-ce que, les écrans qu'on a en onboarding côté Conto, comment est-ce que ça se passe aussi côté compétiteur, c'est-à-dire la manière, par exemple, d'où les boutons sont displayés sur leur écran. Est-ce qu'il y a aussi des steppers, par exemple? Est-ce qu'on leur explique bien les étapes? Est-ce que les pages sont denses ou est-ce que c'est plutôt aéré? Il y a quand même tout un pattern aussi, des fois, à comprendre. Surtout pour la partie onboarding qui peut être long, surtout dans la partie fintech, même banque, ça peut être très long. Donc c'est important aussi de comprendre et de voir en tout cas le confort de l'utilisateur en fait, ailleurs tout simplement. Et si nous aussi en fait on peut s'en inspirer, peut-être tirer quelques idées par-ci par-là. Donc c'est très important. Et c'est très important d'être à jour avec les patterns.
C'est vrai que tu vas regarder les étapes et après tu vas peut-être plus rentrer dans les composants aussi.
Exactement.
Et c'est moi où je serais plus focus sur les mots, les termes utilisés, parce que souvent, en fait, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Autant utiliser des mots qui sont déjà compris. Et aussi, j'aime bien aussi me focaliser sur est-ce qu'il y a des choses qui sont expliquées et comment elles sont expliquées. Surtout qu'on est dans un secteur avec pas mal de contraintes légales, pas mal de jargon surtout. Donc, c'est vrai que moi, je me concentre aussi là-dessus et le type d'action qui est demandé aussi dans le parcours.
Et puis nous, en formulaire, comme on dit encore, onboarding, c'est vraiment le début. Et c'est beaucoup de legacy. Donc, en effet, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vrai qu'on peut penser qu'on peut être un peu restreint par moment, mais moi, je ne trouve pas. Je trouve, au contraire, ça nous apporte encore du challenge.
Ah ouais, ouais, donc, complètement. Et du coup, là, c'est plutôt pour le benchmark, la partie concurrence. On va avoir une analyse plutôt centrée utilisateur. Et toi, du coup, Fanny, ton boulot de ce côté-là, c'est tu vas recueillir des données déjà existantes.
Ouais, je vais analyser la data pour comprendre les comportements actuels ou quelle est la population à laquelle on souhaite s'adresser, quelles sont leurs caractéristiques, comment ça peut rentrer en compte aussi dans la solution. Et après, on va faire un focus donc, avec UXWriter sur les préférences utilisateurs, plus au niveau des verbatims, tout ce qu'on a pu recueillir. Et si on n'en a pas assez, on peut même en créer, contacter des utilisateurs de ces catégories qui nous intéressent pour creuser le sujet et comprendre quelles sont les attentes.
Les frictions aussi qu'il peut y avoir, les émotions et du coup, c'est quoi les préférences en termes d'expérience.
Et en vrai, c'est vrai qu'on a tendance, je trouve qu'on peut vite passer ce côté préférence utilisateur, alors que souvent, il est très important, ça nous donne la direction finale en fait, aux propositions et la direction en fait, qu'on aimerait avoir. Et ça nous permet aussi de nous aligner sur ce qu'on appelle du coup le job to be done, tout simplement.
Ouais.
Et parfois, on a des surprises. Quand tu parles aux utilisateurs, tu te dis « Ah, il a compris ça
!» Tout à fait. Et après, on a toute une partie aussi d'explorer le sujet, l'activité. Et, comme on disait, il y a beaucoup de jargon, de contraintes légales. Et il y a ce côté-là, contraintes en fait, aussi, qu'on explore, quoi.
Oui, parce qu'on a, comme on est dans un, comme tu disais, dans la fintech, on a quand même beaucoup de sujets qui viennent du légal et de la compliance qui sont des contraintes en entrée pour nous et qu'on essaye de rendre accessible à l'utilisateur et pas trop bloquant en fait. On veut pas que ça freine l'utilisateur, donc c'est une partie du challenge, comme tu disais, d'intégrer ça de manière un peu. Tout va bien se passer.
Donc, même s'il y a ce duo, voire trio en VA, on ne va pas hésiter à demander aux équipes légales des choses importantes en termes de jargon, de forme juridique, etc. À pas hésiter à demander au support client aussi des éléments, notamment de verbatim ou des retours qu'il peut y avoir. Donc, on demande aux différentes expertises de la boîte. Donc, du coup, cette VA-là, ça aboutit à nous ce qu'on appelle un concept paper. Donc, en gros, il y a vraiment... c'est un résumé, c'est un condensé de toutes les recherches qui ont pu être faites. Et aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'on va aussi avoir ce focus sur les indicateurs de succès et l'analyse qu'on pourra faire avant. Après, et toi, du coup, comment tu... C'est plutôt la PM, le PM qui te détermine. Et toi, comment tu fais pour dire c'est plutôt ces chiffres-là, ce succès-là qu'on vise?
En fait, on regarde... L'état actuel nous donne déjà... qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, par exemple, si tu parles de conversion, c'est quoi la conversion actuelle? Qu'est-ce que je pense améliorer? Qu'est-ce que j'ai envie de creuser, etc. La data t'aide à construire une espèce de démonstration ce que tu pourrais atteindre si tu touches à telle ou telle partie du produit. Et une fois que tu es convaincu que ton raisonnement tient la route et que c'est quelque chose d'accessible et à la fois d'un peu ambitieux, ça devient ton but et ça devient ce qui doit driver toutes les décisions.
Donc du coup, on a vraiment tout ça dans le concept paper et on va lancer le projet, ce qu'on appelle nous un kick-off, un VA kick-off, pour lancer justement cette phase de value engineering. Et pareil, Fanny, explique-nous en quoi ça consiste cette nouvelle phase qui va être très intense.
Ouais, la value engineering, c'est la phase de conception à proprement parler. Donc, on connaît bien le problème. On connaît ce qu'on veut atteindre comme succès sur ce problème. On ne sait pas encore exactement comment on va résoudre le problème. Et c'est ce qu'on va décider tous ensemble. On a quand même des pistes, parce que le benchmark, parce que des idées utilisateurs, ou même des idées qu'on avait avant qui nous ont amené là. Mais on arrive avec plusieurs pistes. Et ce qui est très intéressant dans cette phase, et moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez Conto, parce qu'on le fait bien et on le fait intentionnellement, c'est qu'il y a tout le monde autour de la table, y compris tous les développeurs qui vont travailler sur le sujet. Et c'est avec eux qu'on va construire. Et donc, en fait, toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure de la conception, on a toujours quelqu'un qui a des infos pour orienter, pour aider, etc. On a direct un retour des développeurs sur la faisabilité, sur le coût. puisqu'en tant que PM, je vais être assez vigilante sur le coup parce qu'on a quand même des... On va atteindre un succès, mais on ne va pas y passer à la moitié de l'année. Quoi. Donc, c'est toujours un compromis entre le coût et le succès qu'on vise. Ouais. Et le fait d'avoir cette boucle de feedback très rapide où on est tous... Alors, on a même des modes bootcamp qu'on a essayé, où on s'est mis pendant 3 jours tous autour de la table, en mode, on quitte pas la table. Bon, c'était un peu intense. Mais on essaie quand même de faire cette phase-là de manière assez condensée, où tout le monde est focus sur le problème, notre fameux one piece flow. Et moi, je trouve ça très, très chouette parce que c'est intense, mais c'est très riche, en fait.
Ouais.
Et souvent, on est assez content à la fin de se dire, waouh, on a sorti ça, on sait où on va, on est tous alignés.
Ouais, donc on a vraiment des workshops, des temps d'atelier, de travail tous ensemble. Et c'est vrai que les devs, moi, je pense que c'est grâce à eux, en partie, que j'ai vraiment le plus évolué parce qu'en fait, ils voient tout. Ils voient vraiment tous les cas particuliers. Donc, au-delà des contraintes de faisabilité, ils voient vraiment les cas particuliers, les obstacles, etc. Et du coup, nous, côté design, on essaye de penser à tout, mais on ne voit pas tout.
Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, quand on rentre dans cette phase, on sait personnellement que le premier workshop design est rarement final.
Ouais, c'est clair.
Clairement. Mais ce qui est vraiment bien, quand on, en tout cas pour ma part, quand je démarre vraiment le premier workshop design, c'est que bah, ce n'est pas forcément le workshop où je me dis « ouais, il faut qu'il valide la solution », c'est vraiment le workshop où je me dis « bon, là, c'est le moment de tout entendre, de savoir tout edge case possible et inimaginable, de comprendre si c'est faisable ou pas le coup ». Parce que moi, je me dis toujours, en fait, c'est oui, on concevoir voilà, une nouvelle solution, c'est une chose, mais il faut faire en sorte aussi que ça reste dans la stratégie business et que ça respecte les coûts. Il y a aussi quand même des deadlines, parce que comme dit Fanny, en effet, c'est bien d'avoir des solutions, on n'est pas là pour les faire pendant un an.
Parce qu'en vrai, ils peuvent tout faire.
Voilà, ils peuvent tout faire, clairement, mais il faut quand même rester aussi réaliste. Mais oui, en effet, de mon point de vue product designer, la value engineering, c'est vraiment la partie la plus challengeante, stressante, mais la plus intéressante en même temps. Et je sais qu'au début, j'avais cette peur de parler au tech.
Ah ouais.
J'étais là, mais je vais me faire mais fusiller, moi, c'est pas possible. Mais en vrai, au fur et à mesure, plus on en fait, plus on se sent à l'aise et plus on apprécie justement d'avoir ces échanges avec tout le monde. Et comme dit Fanny, c'est vraiment le moment, on est tous autour de la table en mode, bon, on est ensemble, il faut qu'on sorte quelque chose. Il est l'heure d'en discuter et parlons-en. Quoi. Donc ça, c'est super.
Ouais. Mais ouais, c'est vraiment, comme je disais, c'est hyper intense. Moi, je sais qu'à chaque journée de chaque fin de journée de phase de vie, je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. Mais c'est bien de pouvoir vraiment concevoir tous ensemble. Et petite anecdote, je suis obligée de le dire, mais quand on travaille avec Fanny, pendant toute la durée de la vie, donc peut-être qu'il peut durer une semaine, 2 semaines, voire plus, elle va nous caler des temps dans notre agenda, genre pour vraiment dédier au workshop. Donc du coup, au début, ça peut faire flipper. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que quand il n'y a pas de workshop, au final, on a vraiment du temps pour se focus sur la partie design ou moi sur le côté écriture.
Mais c'est vrai que c'est à cause de toi, maintenant, je mets des crossovers partout.
Ouais, dans les agendas.
Mais c'est une bonne tactique.
Ouais,
hein.
ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, même s'il y a ce travail avec tout le monde, on a aussi, nous, nos temps de travail ensemble, designer et UX writer, justement pour travailler plus concrètement sur les choses.
C'est hyper important et moi, c'est quelque chose que j'apprécie de faire et que je continue à le faire pour l'instant. Et c'est grâce à Conto aussi, dans le sens qu'on a quelqu'un qui fait du design, on a quelqu'un du coup qui fait de UX copy. Il est temps, en fait, qu'on aligne nos forces. Et pour moi, les workshops durant la vie avec l'XCopy, ce sont les plus importants. Parce que du coup, on avance vraiment ensemble. Pour avoir bossé du coup avec tous les XCopy du coup en onboarding, j'apprécie toujours en fait pouvoir bosser avec vous parce qu'à la fin de chaque workshop, soit on avance, mais on recule jamais.
J'ai cru que tu allais dire soit on avance, soit on recule.
Soit on avance ou soit on a une nouvelle idée en fait qu'on aurait encore peut-être poussée. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau à la fin des workshops, en tout cas, avec la copie. Et ça, c'est vraiment top.
Ouais.
Et dans tous les cas aussi, ce qui est hyper intéressant côté product design, c'est que la solution évolue vraiment pendant la vie. L'écran que tu présentes au premier workshop ne sera pas l'écran que tu présentes au dernier workshop.
Ouais,
c'est pas non plus complètement différent. Je ne vais pas passer du blanc au rouge, non.
Ouais, ouais. Mais c'est hyper important, ces temps de travail. Après, moi, j'essaie... Enfin, je suis obligée, et je pense que toi aussi, c'est que on a ces petits placeholders là, mais j'ai toujours, moi, me dire, allez, j'ai plusieurs matinées après-midi, je mets nos meetings en grand parce que j'ai besoin de me focus vraiment sur l'écriture pure. Quoi. Ouais. Et toi, ton côté aussi, tu as besoin de...
Quand on doit vraiment partir dans une itération pure et dure, ouais. C'est le moment là où il faut un minimum, au moins 2 heures là où je sois vraiment focus.
Et c'est vrai pour toute l'équipe parce que les développeurs, ils ont aussi besoin d'aller mettre les mains dans le code, voire commencer, parce que la current situation d'un point de vue produit, c'est cool. Mais comme tu disais, pour détecter tous les edge cases et tous les trucs qu'on n'avait pas anticipés, ils ont besoin de regarder, eux, dans le code, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et du coup, en fait, les placeholders, c'est un peu l'idée. C'est déjà, si on a besoin de mettre des workshops, il faut être sûr que tout le monde sera dispo. Mais c'est aussi l'idée qu'en dehors des workshops, chacun doit pouvoir se focus sur l'itération dont il a, qu'il a besoin de faire. Et côté produit, on en a aussi besoin pour prendre du recul. Et regarder tout ce qui se passe parce que ça grouille la VE. Et moi, je ne suis pas dans tous les workshops, même si j'ai tendance à ne pas vouloir y être. mais je me soigne. Et du coup, il faut que je prenne du recul pour regarder ce qui se passe, les décisions qui sont prises de manière plus microscopique.
C'est vraiment en fait une phase de réflexion intense et qui plus est côté product design. On est aussi après challengé par nos pairs, donc côté product design. C'est vraiment du coup, une fois qu'on a. On est tous alignés sur la solution. Moi, faut que je le challenge avec ma manager et au moins minimum de product designer de mon équipe. Et par moment, on peut avoir des bonnes surprises où tout le monde est aligné, tout le monde trouve que la solution est viable et que c'est très cool. Mais il y a des moments aussi où on est vraiment challengé. D'ailleurs, il y a des moments où on peut être challengé sur un bouton, on peut être challengé sur un écran, on peut être challengé aussi pourquoi on n'a pas poussé un peu plus. Donc, c'est le moment aussi pour nous de savoir si on a vraiment balayer toutes les options possibles, si on ne pouvait pas même créer quelque chose de nouveau, si on doit aussi quand même se contenter de ce qui existe déjà. Donc voilà, cette phase, elle est vraiment intense pour le coup, à côté product design, elle est très très intéressante parce que tu es dans la réflexion et puis tu apprends des nouvelles choses et tu as des nouvelles idées et puis tu recueilles en même temps les feedbacks d'un peu tout le monde et il faut que la solution elle plaise à tout le monde aussi au final.
Ouais, je reviens sur le challenge par tes pairs auquel généralement je participe. C'est vrai que c'est aussi important d'avoir un regard extérieur parce que on a la tête aussi dans le guidon tout le temps et il y a peut-être des choses qu'on voit pas, ce challenge est hyper intéressant aussi pour nous permettre d'évoluer, de faire évoluer nos compétences aussi,
et même au niveau de Conto, globalement on recherche quand même à avoir une cohérence design, le fameux tone of voice. Et ça, c'est tu l'as pas si tu ne fais pas se croiser les gens du même métier. Alors, quand on est dans notre cellule feature, on est un de chaque métier, en tout cas côté produit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se frotter aux autres pour garder cet esprit commun pour travailler sur le même produit, finalement.
Ouais. Et donc là, l'idée, c'est vraiment qu'à l'issue de cette phase, on soit tous alignés, qu'on ait un niveau de confiance fort dans ce qu'on a, ce qu'on a fait. Et là, on passe en phase de spécification. Tu peux expliquer
Donc, spécification, on va restituer finement tout ce qui a été décidé sous plusieurs formats. Il y a un format écrit qui est ma responsabilité, on va dire, qui est de tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est...
plutôt technique.
Plutôt technique, mais pas forcément... Pas les choses qu'on va voir sur les écrans, on va dire. Tout ce qui est derrière, en fait, le background, tout ce qui est back-end, un peu le back-office aussi, tout ce qui va se passer avec le customer support, toutes ces choses qui gravitent autour du produit. Et il va y avoir la visual spec préparée par designer sur laquelle je vais rajouter tout ce que je peux qui a trait aux écrans. Donc, moi, je vais parler tracking, je vais parler qu'est-ce qui se passe quand tu cliques là, etc.
C'est important, c'est vrai que nous, c'est le moment où on met enfin au propre. Donc, mais vraiment au propre, les écrans. Et bien sûr, il y a l'écran principal et tous les états. Donc, s'il y a une erreur, si l'utilisateur a bien rempli, s'il a oublié une information, il faut quand même penser à tout parce qu'il faut qu'on puisse donner aux développeurs, tout en fait, au même endroit, faut qu'ils puissent être en fait confortables avec ce qu'on leur montre tout simplement. Et bien en effet, comme dit Fanny, c'est pour ça que c'est très important aussi de bien mettre à l'écrit du coup tous les comportements, si on a des illustrations ou autres, où est-ce qu'ils peuvent trouver le lien. Donc c'est un peu ce moment où on met tout à plat et pour que les développeurs puissent pas en fait à revenir vers nous quand ils vont commencer à coder de leur côté.
Ouais, côté UX writing, c'est vrai que autant dans la phase de value engineering, on est plus sur nous, ce qu'on appelle best effort copy, donc plus sur de l'intention quand même assez poussée de contenu. Et en phase de spec, au tout début, on sera vraiment sur la master pour vraiment peaufiner dans le détail et aussi faire challenger par nos pairs. Donc des fois, le challenge, ce n'est pas du tout un exercice facile, mais encore une fois, c'est hyper intéressant pour évoluer. Et pareil, on met au propre dans les visual specs, les textes dans Figma directement. Et après, moi, j'ai une phase plus avec front-end et back-end pour créer les clés de localisation, pour pouvoir localiser ensuite ce qu'on a pu écrire en anglais. Et ça, pareil, les clés, ça va dans les visual specs aussi, dans cette phase-là. Donc là, tout est clean et l'idée, c'est que les front-end, notamment, revoient et on a des œils de lynx. Je pense à Racha.
Si tu nous écoutes. Non, ouais, c'est...
Mais on a vraiment un œil de lynx. Ils checkent si tout est vraiment cohérent et s'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ensuite. Ouais.
Mmh. Et c'est pour ça aussi que d'autre côté product design, j'ai oublié de le préciser, mais on l'envoie aussi encore en review. Mmh. Donc, dernier passage au peigne fin par encore mes pairs. Et là, c'est vraiment au pixel.
Ouais. Quand je vois les commentaires parfois, je me dis waouh!
Au pixel près, à la couleur près. Mais c'est hyper intéressant parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a tellement la tête dans le guidon. Enfin, nous, on les connaît, ces écrans, au bout d'un moment. Et je pense que voilà, notre psychologie fait que, au bout d'un moment, forcément, il peut y avoir des coquilles. Et d'avoir quelqu'un de l'externe qui vient juste en gros avec son petit pinceau en mode ce qui ne fonctionne pas, c'est cool aussi. Et puis c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on est là aussi pour délivrer de la qualité, tout simplement.
Ouais.
C'est ça en fait, c'est ce qui fait qu'on va délivrer de la qualité et qu'on ne va pas avoir besoin d'itérer 125 fois pour arriver à cette qualité.
Après au final, cette phase de spec, elle ne dure pas si longtemps que ça, globalement courte. Et après, on rentre plutôt en phase de localisation. Et aussi d'autres assets qu'il peut y avoir, comme par exemple, moi, c'est, même si j'ai briefé avant, c'est à ce moment-là où on attend aussi tout ce qui est article de foire aux questions aussi. C'est à ce moment-là aussi. Et après, côté illustration, si on en a besoin, nouvelles illustrations.
C'est ça. En fait, pour les illustrations, des fois, c'est un peu le piège parce que quand on a besoin de faire une demande, il faut quand même attendre d'être en spec. Parce que pour nous, la vie, des fois, elle est... On a peut-être encore d'autres solutions, donc ça veut dire qu'on a encore acheté d'autres écrans. Donc, on attend vraiment d'être sûr que la solution est bonne et que, la solution challenge, il y soit passé, etc. Et du coup, moi, c'est vrai que je demande, en fait, quand j'ai besoin d'illustrations, je demande vraiment fin VI, début spec. Je suis vraiment pas entre les deux. Ça prend du temps. Ils ont aussi beaucoup, beaucoup de demandes parce qu'eux, ils ne gèrent pas que le produit. Ils gèrent vraiment toute l'entreprise, pour le coup. Donc, c'est-à-dire aussi des demandes de RH, enfin, de demandes complètement en dehors du produit. Donc oui, il faut savoir aussi trouver le bon moment pour leur demander les illustrations.
Ouais, c'est toujours une question de bon moment. Oui. C'est clair. Mais ouais, du coup, moi, pour la phase de local, là, c'est là où j'ai justement mes clés, où je vais rentrer, on travaille avec Localize, où je vais vraiment rentrer le texte en anglais et faire tout bien pour que mes autres collègues UX writers puissent traduire et adapter dans la langue des différents marchés qu'on a.
Donc ça prend. Je pense à l'allemand en particulier.
C'est pour ça que, moi, c'est vrai que quand j'écris, je pense à l'allemand tout le temps. J'ai tout le temps l'allemand là, même si je ne parle pas du tout un mot d'allemand et même si je travaille souvent sur le marché allemand, j'ai toujours pas compris l'allemand. Quand j'écris en anglais, je pense toujours à l'allemand. Ce sera toujours beaucoup plus long. Je pense au français qui est la deuxième.
Sur aussi côté design, quand on doit vraiment faire des écrans version mobile, on pense à l'allemand aussi. Il faut que ça rentre.
Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler quand on peut, quand nos features sont dispo sur mobile. Travailler d'abord sur mobile, ça permet vraiment plus facilement cet exercice de concision. Moi j'ai cette phase de localisation où je vais attendre peut-être 1 à 3 jours selon la taille de la fonctionnalité que mes collègues localisent et je vais pouvoir avoir une petite phase où je vais vérifier des petites choses, j'arrive à comprendre l'espagnol et l'italien, donc je check un peu, moi comme je suis une des référentes françaises, du coup Ça, c'est ma partie côté français. Mais je vais surtout vérifier que les espaces sont là, que les liens sont là, que les variables sont bonnes, des choses comme ça. Et tout est nickel. Et puis, on est go, quoi. Et là, c'est le moment où, genre, moi, j'ai fini. Débrouillez-vous, les devs, quoi. Et débrouillez-vous avec Fanny.
Alors que moi, je continue jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai que c'est la partie delivery. Normalement, on a tout bien préparé pour que ça se passe bien. Mm. L'expérience me montre quand même que c'est bien de suivre au moins à la semaine, voire au quotidien. C'est quand même, enfin, là, moi, je fais au quotidien et j'aime bien. Mais c'est une partie que j'aime beaucoup, en fait. J'adore travailler avec les développeurs. Donc,
ouais, du coup, elle met des daily quand même, voilà. Mais c'est pas forcément utile pour eux, mais elle en met quand même de temps en temps.
Ça fait plaisir de les voir tous les jours.
Ça a duré 5 minutes ce matin.
5 minutes tous les matins. Mais ça me fait plaisir de les voir tous les jours pour tâter un petit peu. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'on s'est loupé? Est-ce qu'on va plus vite que la musique? Puis ça nous apprend à connaître notre façon de travailler et à s'améliorer de feature en feature, à être de plus en plus efficace. Quoi. Mm. Mais donc oui, la delivery, c'est majoritairement côté de développement que ça se passe. Hein. Mm. On est juste là en support au cas où il y a des choses imprévues. Ouais. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire chez Conto quand même, c'est de valider au fur et à mesure. Donc dès qu'il y a des bouts, donc au début, on l'a pas dit, mais dans la value engineering, il y a aussi tout un pan de travail sur découper le développement en tâches pour voir un petit peu le temps que ça va nous prendre de le faire et où est-ce qu'on peut caler toutes ces étapes de validation sans attendre la fin et que le produit soit prêt. Et donc, moi, je reste quand même disponible pour faire toutes ces validations au fur et à mesure, de manière à ce que quand on arrive à la fin du développement, normalement, tout est déjà validé, il reste plus que le petit dernier point validé.
Ouais,
et on fait ensemble toutes les trois.
Hein. Ouais, du coup, cette phase de QA, de un peu quality check, quoi, assurance, où toi, Cassandra, tu seras plus focus sur justement le pixel, les composants. Ouais,
c'est mon moment de repasser aussi au peigne fin, tout ce qui était dessus. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup de pixels, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas que du pixel, c'est vraiment aussi tout type d'appareil. Parce qu'un utilisateur peut venir avec un portable, une tablette et. Ou via son ordinateur, donc ça aussi c'est hyper important, les comportements en fait, tout simplement de chaque écran. Et oui, après, même pour moi, c'est la tâche la plus importante à regarder, parce que entre le moment où tu passes d'un ordinateur à un portable, voilà, si ton bouton qui est en haut, il finit en bas à moitié cassé,
Et c'est vraiment pas une étape de... Enfin, on fait pas cette étape parce qu'on n'a pas confiance dans les devs.
Non.
On a confiance en eux, c'est juste qu'on est chacun aussi honneur de ce qu'on a produit et on veut s'assurer de la qualité. Et puis après aussi, peut-être qu'ils ne voient pas tout non plus. Enfin, c'est aussi ça l'idée de la collaboration. Et c'est vrai que moi, du coup, je vais vérifier que toutes les langues, ça correspond bien à ce qu'il y a inscrit dans localize. Et même si je vois trouble sur l'allemand à chaque fois, je regarde deux fois. Moi, je m'assure plutôt des textes de ce côté-là. Et toi, ce sera plus... du
fonctionnel,
fonctionnel de ce qui est trigger et des liens.
On est hyper complémentaire parce que moi je vais pas regarder le design dans le détail, je vais pas regarder la copie dans le détail, mais par contre je vais tester tous les scénarios, quoi. Je vais cliquer sur tous les boutons et faire des marches arrière et changer un champ et voir si le formulaire s'update bien et c'est voilà, et notre but c'est de se mettre à la place de n'importe quel utilisateur qui pourrait utiliser comme il a envie ce qu'on a fait et de vérifier que ça marche toujours bien.
Ouais. Mais globalement, pour les phases, je pense que c'était un peu plus concret sur comment on collabore ensemble. Et ce que je trouve, moi, intéressant, c'est qu'on a chacune notre expertise, même côté dev, mais pour autant, on n'hésite pas à empiéter, entre guillemets, parce que surtout en phase de vie et de recherche, on va faire, OK, qu'est-ce qu'on a à faire ? On va se répartir le travail, on ne va pas non plus se focaliser que... sur ce qu'on sait extrême, enfin sur notre domaine de compétences en fait.
Et on se permet aussi de se challenger, c'est cool, parce que c'est pas notre expertise, mais on peut quand même avoir des avis et des insights qu'on a sans s'en rendre compte, qui nous permettent de challenger les autres parties. Donc,
on a plus la culture du challenge, pas de la validation, quoi. On est vraiment honneur de l'expérience, de ce qu'on conçoit, et on est plus dans le challenge et on entend, on intègre ou pas. écoutez, OK, c'est, je pense, plus clair et je pense que j'espère que ça va intéresser. Pour finir un peu avec quelques petites questions de fin, si vous vous mettez à la place de personnes qui peuvent écouter, qui est des product designers ou des PM, ce serait quoi vos conseils pour intégrer et collaborer avec un ou une UX writer?
Alors moi, bah du coup, comme on l'a vu, je trouve que ça apporte de la richesse d'avoir les trois profils tout au long de la conception et surtout de la discovery, en fait. Et je trouve que c'est bien d'impliquer l'UX writer assez tôt quand on peut le faire parce que cette compréhension fine de la psychologie et qui est très complémentaire du design, en fait. Et du coup, la data, elle dit pas tout. Et ouais. C'est vrai que côté PM, enfin moi, en tout cas, je suis une PM avec une sensibilité data de par mon background.
Ouais.
Et du coup, c'est hyper utile pour moi de collaborer avec vous le plus tôt possible pour avoir cet aspect expérience utilisateur au cœur des réflexions.
Ok.
Non, je rejoins Fanny sur ce qu'elle a dit et qui plus est parce que c'est vrai qu'elle a eu le temps de faire sa value analysis.
Ouais.
Nous, c'est vrai qu'on la rejoint assez tôt, donc on a aussi notre temps de pouvoir explorer nos pistes. Mais voilà, on part quand même du principe qu'une expérience utilisateur, elle est unique et complexe, et ce peu importe le scope que tu couvres, et qu'il est important aussi, du coup, pour l'UX writer de pouvoir aussi avoir ce moment, de pouvoir avoir toutes les informations en amont et de pouvoir aussi commencer à explorer de son côté.
Ouais, vraiment en amont. Et pour les UX writers qui écoutent ou qui vont lire nos échanges, c'est quoi les conseils que vous leur donneriez pour bosser avec un ou une PM et product designer? On commence par toi, Fanny. PM.
Alors, pour bosser avec un PM, moi, j'ai quand même ce sentiment qu'on est dans des métiers où les relations interpersonnelles jouent beaucoup. Donc, chaque relation va être un petit peu unique. On n'accroche pas tous pareil avec tout le monde. Je vous aime. Mais indépendamment de ça, un conseil que je pense un peu universel, c'est de ne pas hésiter à challenger le PM sur ses hypothèses, sur les volumes, sur les profils des utilisateurs. Parce que ça permet de mettre en lumière des edge cases qu'on aurait pu oublier et qui finalement ne sont pas si insignifiants que ça, et ou des trous dans le raisonnement, parce que voilà, parfois on est convaincu de certaines choses, on s'en rend peut-être pas compte, et avoir un challenge extérieur, voilà, ça permet de remettre les choses en perspective, d'affiner ses connaissances et toujours au service de la valeur qu'on va créer pour l'utilisateur.
Complètement d'accord. Elle a quasiment tout dit. Ce que j'ajouterais quand même, c'est que là, pour le coup, ce fameux duo gagnant qui est product designer et UX writer, c'est que notre but commun, c'est vraiment le confort, en fait, de l'utilisateur, tout simplement. Dans le visuel, donc par le design, mais aussi par ce qu'il lit, donc par l'écrit. Et du coup, pour moi, c'est le moment où ne pas hésiter à faire des workshops, ne pas hésiter en fait à ce que l'UX writer challenge le design, parce qu'il est là aussi pour ça. Et là aussi, pour nous faire comprendre que peut-être là, on peut partir sur une autre piste. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées ensemble, tout simplement. Et pour moi, voilà, la communication, elle est clé entre du designer et l'UX writer. Je sais que moi, de base, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, d'accord. c'est ce qui fait aussi le charme de ce métier. Je trouve que c'est pouvoir communiquer, découvrir des idées ensemble, pouvoir aussi converger des idées ensemble, tout simplement. Oui, pour moi, je suis maintenant persuadée, en tout cas depuis que je bosse chez Conto, que le combo product designer et UX writer ne peut pas être séparé. Dès qu'il y a un product designer, il faut de la copie.
Ouais.
Donc, voilà.
Ouais. Même si c'est vrai qu'on essaye d'intervenir là où on a plus de valeur ajoutée. Et l'idée, c'est pas non plus de vous rendre dépendant de l'UX writer.
Du tout. Et je me souviens aussi quand j'ai vu mon interview pour Conto. C'était à cette époque-là, du coup, je ne connaissais pas du tout encore l'UX writing, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de bosser avec un UX writer, mais je me souviens avoir demandé du coup à Julien, qui à l'époque allait devenir mon manager, mais pourquoi est-ce qu'on a des UX writers et pourquoi est-ce qu'on n'a pas des user researchers? C'était une de mes questions en interview, parce que c'est vrai que je m'étais mis en tête qu'il y a le product design, il y a beaucoup de sous-scopes dans le product design, mais c'est vrai que l'user research, on en parle beaucoup plus dans le product design, et c'est une étape très importante. Et je ne savais pas en fait à ce moment-là que c'était aussi une partie du PM.
Ouais, c'est quelque chose qu'on se répartit.
C'est ça. Donc j'avais un peu cette vision un peu peut-être qui n'était pas forcément bonne. Et du coup, il m'a dit, mais tu vas comprendre quand tu bosseras avec un UX writer. C'est vrai que oui, tu
veux. Exactement.
Donc si on me demande demain, tu préfères avoir un user writer, tu peux mettre quelqu'un en copie avec moi, s'il vous plaît.
Ouais. mais d'avoir cette richesse de collaboration. Enfin, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis là. Enfin, j'ai appris. Enfin, c'est le jour et la nuit, ouais. quoi. Entre le moment où je suis arrivée et maintenant, j'ai tellement appris.
Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais en arrivant chez Conto, quand j'ai dû faire mon premier projet, mais vraiment la boule au ventre de devoir présenter quelque chose.
On était toutes les trois sur ton projet.
Non, c'était pas avec toi.
Ah ouais, c'était
non,
pas
celui-là. C'était pas avec toi, non. Nous, notre premier projet ensemble, c'était plus courant juin. Mais oui, la boule au ventre, quoi. De devoir discuter, de devoir argumenter ton idée. Mais là, maintenant, on ne se dispute pas vite.
Non, mais en fait, on a un bon rythme, c'est intense, mais ça reste sain, selon moi, en tout cas. Mais oui, on progresse vite, mais à la fois, on gagne en aisance aussi et en
confiance.
En confiance. Et mais du coup, on discute plus sereinement, toujours en se challengeant, mais sans...
On se challenge et on entend la critique, qu'elle soit positive, on va dire négative, et il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Je pense qu'on est tous...
En fait, l'approche, elle est beaucoup dans le questionnement et beaucoup dans la réflexion, et beaucoup dans le challenge, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, à ce moment-là, même pour moi, le mot critique, je n'utiliserai pas ce mot, c'est vraiment plus en mode j'ai besoin de te challenger parce que je ne suis pas forcément sûre de la direction qu'on prend. Je prends plus comme ça quand on discute ensemble.
Ouais. Et ensuite, j'aime bien terminer avec quelques ressources, même si je sais qu'elles en ont préparé plusieurs, pas mal même. Donc, du coup, on va pouvoir les énumérer. C'est Fanny, déjà, c'est quoi un peu tes ressources chouchou pour. Justement, évoluer dans la culture produit
De là, moi, j'ai fait une super formation de PM. On va quand même rendre à César, c'est quand même César. Donc, j'ai fait la formation Noé en reconversion. Et déjà, c'était une super base. Je veux dire, en un mois, j'ai appris tellement. Et donc, un peu le bouquin qui était le livre de chevet, c'était Inspired de Marty Kagan. Après, dans les podcasts, j'aime bien Lenny's podcast. Donc ça, c'est très PM. Okay. Et Clé de voûte aussi. Clé de voûte, ce qui est sympa, c'est que c'est la communauté française. Donc, ça paraît encore plus proche, en fait.
Ouais.
J'aime bien. Il y en a plein d'autres, des podcasts que je suis, mais on ne va pas tous les citer. Et après, pour vraiment le côté lean qu'on a chez Conto, moi, quand je suis arrivée, avant d'arriver, j'avais demandé à Marc-Antoine, qui est notre CPO. Et du coup, il m'avait conseillé The Lean Turnaround de Art Barnes. Je ne sais pas comment on dit son nom. Bref. Et donc ça, c'est du lean des années 70, je pense, aux États-Unis, dans l'industrie. Et c'était hyper intéressant pour disséquer ce que c'était le lean au départ, en fait. Parce que c'était juste après Toyota, quoi. C'est vraiment...
Ouais.
Et donc après, t'enchaînes sur Learning to Scale, qui est la bible à Conto de Régis Medina. Et c'est vraiment hyper concret, pour le coup, celui-là.
Ouais.
L'autre est... C'est un peu loin du monde du digital, le premier. Mais là, c'est hyper concret. C'est vraiment ce qu'on fait à Conto et ça met bien dans le bain. Et voilà. Après, je trouve que ce qui est cool à Conto, c'est quand même qu'on nous laisse expérimenter. Et donc, on a nos standards, on a notre façon de faire. Mais bon, si tu as des idées, tu peux les tester. Quoi.
Je ne sais pas pourquoi. Pour tout ce qui est UX, etc., j'adore les podcasts. C'est super intéressant. Tout le monde le connaît, c'est une journée. Je pense que celui-là, mais voilà, c'est génial. Et puis sinon, notre podcast, c'est... Alors, Romain Panchenat, très très bon pour parler de design et produits. Et sinon aussi, ce que j'ai d'autres, designbella.co, donc podcast également. Donc, c'est des petites histoires en fait. Des fois, en fait, des petites histoires.
Ok, je connais pas.
On parle un peu après. Voilà ce qui s'est passé par exemple dans un magasin. Voilà pourquoi des fois le design peut être important. Et c'est super intéressant. En vrai, c'est vrai que des fois, on se dit dans le quotidien, tu vois, par exemple, les portes d'entrée de Conto. Et ben moi, je suis désolée, moi je trouve que le push il n'est pas assez gros, donc des fois je tire alors qu'en fait il faut pousser. sinon après, il y a aussi un classique UX podcast, tout simplement. Du UI Breakfast aussi, qui est génial. Et après, un site que j'adore parce que pour le coup, on est plus là sur de la lecture, mais via un site internet, ça s'appelle Growth Design. Et en fait, ce que j'adore avec ces personnes-là, c'est que vraiment, elles décortiquent. Leur dernier en tête, c'était Loom. Donc, Loom qui est un peu, un peu comme Clap, en fait. Ils sont vraiment des quantiques.
Dans
une psychologie hyper intéressante. Et ils ont plein de produits comme ça. Ils ont fait Spotify, etc. Donc, hyper intéressant. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que je trouve que écouter comment les gens présentent du X, c'est...
Ouais, c'est vrai. C'est un, ça te permet aussi, toi, de, bah, de savoir le présenter ouais, aussi quand on parle. Voilà. Ouais, intéressant. Bah, j'ajouterai, j'ai mon petit centre de ressources sur Notion, j'ajouterai vos recos. Et puis, bah, je pense qu'on a fait un bon tour.
Ouais.
J'espère que ça vous a plu, l'exercice. Et puis, on va finir sur une note de love, love. Moi, je suis trop contente de vous avoir rencontré.
C'est avec
la bestie. Ouais, la bestie. Ouais.
On nous a séparés.
Ouais, franchement, vous êtes l'une de mes plus belles rencontres chez Conto.
C'est réciproque, tu sais. Il y a beaucoup d'amour chez Conto, quand même qu'on le dise, mais c'est vrai qu'on a bien accroché.
Bah, notre premier projet ensemble, quand même. En plus, tu venais d'arriver pour le coup. Hein.
Bah, j'étais arrivée en février. Je sortais d'Account Closing et j'avais remplacé Clara sur un autre truc. J'étais pas encore.
Parce qu'elle est vraiment arrivée sur Hackathon. Et puis, mais alors, toi, tu nous as spoté des choses. Mais elle sort tout.
C'est la rachat de l'Ultrite.
C'était vraiment aussi le projet. Il fallait vraiment qu'on soit organisé. Puis, je vois Fanny en mode bon. Voilà, alors tous les deux jours. Alors voilà, j'ai repensé un peu le Notion. Donc voilà la nouvelle organisation.
Ouais, c'est vrai, je m'en souviens.
Ouais, on a tâtonné sur ce truc, on s'est réinventé.
Oui, chouette. Mais c'était la première fois qu'on faisait une initiative comme ça.
C'était super. Mmh.
Moi, d'autres projets et aventures à vivre.
Ouais, bah, on s'ennuie pas.
Non. Du tout.
Non.
Du tout.
Non, on s'amuse bien.
Bah, très cool qu'on ait pu faire ça chez Conto, qu'on ait pu venir et tout. Merci les filles.
Merci beaucoup les filles. Merci à Pauline.
Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. N'hésitez pas non plus à noter le podcast et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt.